Voilà, bonjour à tous. Il y a un temps pour chaque chose, c'est le temps de se nourrir de la parole de Dieu. Il n'y a pas de vie chrétienne sans la bonne nourriture. La nourriture, c'est ce qui nous permet de vivre, n'est-ce pas ? Si on arrête de s'alimenter, on meurt. Quelle que soit la personne qui s'arrête de s'alimenter, et si elle n'a plus la possibilité de le faire personnellement, il faut qu'il y ait une assistance médicale. Sinon, la personne mourra. Nous allons lire pour ce message dans la bonne nouvelle de Matthieu, l'évangile de Matthieu, chapitre 7, et versets 21 à 28. Mais juste avant, nous allons prier le Seigneur de gloire. Parce qu'il n'y a pas de message annoncé sans l'Esprit de Dieu. Sinon, on peut dire beaucoup de choses, et l'Esprit de Dieu ne peut pas agir dans les cœurs s'il n'y a pas l'onction de Dieu. Seigneur Jésus, Christ roi, parole éternelle de Dieu, qui est venu nous éclairer, nous apporter la vie. En ce lieu, tu es le maître, tu es le roi. Saisis nos cœurs avec le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité que tu as envoyé pour nous éclairer. Parle encore à nos cœurs par ta parole et puisse ton œuvre s'accomplir dans nos vies, afin, ô Dieu, que nous fassions ton œuvre selon ta volonté, conduit par ton Esprit, pour ta gloire et pour le salut des âmes. Amen. Lisons ensemble Matthieu 7, 21-28. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom ?» N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Après que Jésus eut achevé ses discours, la foule fut frappée de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme les scribes. Il enseignait comme ayant autorité, simplement parce que c'est lui l'autorité. Jésus-Christ est l'autorité. Qu'est-ce qu'une autorité ? Nous le savons dans ce monde. Une autorité nous oblige à nous soumettre à des règles et à des lois. Lorsque nous sommes sur la route, s'il y a un contrôle de gendarmerie, une personne sensée et qui n'a rien à se reprocher ne prendra pas la fuite. Si le gendarme lui fait signe de s'arrêter, c'est l'autorité qui lui demande de s'arrêter. Et cette personne va obtempérer. Et moi, ça m'est déjà arrivé, vous aussi certainement. Nous obtempérons parce que c'est l'autorité que représente le gendarme. Et nous nous soumettons à son contrôle. Et c'est normal. Mais au-dessus des gendarmes, des juges de ce monde, des présidents des différentes républiques dans ce monde ou des différents pays, il y a l'autorité suprême. L'autorité qui est au-dessus de toute autorité. Cette autorité s'appelle Jésus-Christ. Il est venu révéler le Père. Et il a demandé au Père de nous envoyer le Saint-Esprit. Mais c'est le même Dieu. C'est la même autorité qui se manifeste en tant que Père, Christ, Saint-Esprit. Concernant cette autorité, Jésus-Christ manifesté au milieu des hommes, parce qu'il avait accepté aussi d'être revêtu de l'humanité, la Bible dit en Hébreux 5, 8, 9, il a appris, bien qu'il fût fils, c'est Dieu venu sur la terre, mais parce qu'il avait accepté de revêtir l'humanité, il a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Et après avoir été élevé à la perfection, il est devenu, pour ceux qui lui obéissent, uniquement pour ceux qui lui obéissent, l'auteur d'un salut éternel. Lui-même a dû apprendre l'obéissance alors qu'il fut fils sur cette terre, parfaitement Dieu, parfaitement homme. Il devient l'auteur d'un salut éternel pour ceux qui lui obéissent de la même manière qu'il a obéi au Père. Pour ceux qui ne lui obéissent pas donc, on peut trouver la réponse. Il n'est donc pas l'auteur d'un salut éternel pour ceux qui n'obéissent pas. Ésaïe 7, 14, 15 avait annoncé sa venue. Il est dit, voici, le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Un signe, la Vierge deviendra enceinte. Nous savons qu'il s'agit de Marie. Et elle enfantera un fils, Jésus. Elle lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec les hommes. Et concernant ce fils, il est dit, il mangera de la crème et du miel, jusqu'à ce qu'il apprenne à rejeter le mal et à choisir le bien. Parce qu'il avait revêtu l'humanité. Dans cette humanité, tout en étant Dieu, il avait un combat lui-même à mener contre le mal et le péché, jusqu'à ce qu'il apprenne à rejeter le mal et qu'il choisisse le bien. Le titre de mon message, c'est « Seigneur, apprends-moi à faire ta volonté. » Et c'est une prière que tous les chrétiens doivent faire. Non pas une fois ou une fois de temps à autre, mais de manière permanente et régulière. Car je peux faire la volonté de Dieu aujourd'hui et demain je ne la fais plus. Je peux me ressaisir. À nouveau, je fais la volonté de Dieu et deux heures plus tard, je ne la fais plus. C'est donc une prière permanente. C'est un état de cœur, un état d'esprit, une relation avec Dieu, désirant faire sa volonté pour lui plaire. Et on vient d'entendre un don spirituel. Le doute a fait que la personne en question a perdu son zèle. En perdant notre zèle, pouvons-nous encore faire la volonté de Dieu? Non, à cause du doute. Il y a donc des choses qui nous font la guerre et qui nous empêchent de faire la volonté de Dieu. Alors, il faut se ressaisir. Seigneur Jésus, apprends-moi à faire ta volonté. Un jour, Jésus va répondre à une demande de ses disciples. Il y répondra favorablement. Parce qu'à chaque fois qu'on va adresser à Dieu une prière qui est dans sa volonté, il y répond favorablement. Et il répond donc à ses disciples, parce que ses disciples l'avaient côtoyé pendant 3 ans et demi. Et ils avaient vu que c'était un homme de prière, un homme consacré. Ils avaient vu l'efficacité de la gloire de Dieu dans sa vie. Ils veulent lui ressembler. Et nous aussi, notre motivation doit être de ressembler à Jésus. Ils veulent lui ressembler. Ils veulent être des hommes de prière comme lui. Ils se rendent compte qu'ils ne savent pas vraiment prier comme il faut. Ils disent, Seigneur, apprends-nous à prier. Dans Matthieu 6, 9, 13, apprends-nous à prier. Ce à quoi Jésus répondra favorablement. Et il leur donne le plan de prière à suivre. Et dans ce plan de prière, à un moment donné, il les dit, nous le connaissons, ce qu'on appelle communément le Notre Père, la prière sacerdotale. Lorsque nous nous adressons au Père, nous devons dire, Père, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Parce que ça veut dire qu'au ciel, la volonté de Dieu, elle est toujours faite. Au ciel, dans la présence de Dieu, dans son royaume, sa volonté, elle est toujours faite. Et sa volonté, elle est parfaite. Alors nous devons dire à Dieu, de la même manière que ta volonté se fait dans ton royaume, de manière parfaite, nous souhaitons, nous désirons, nous recherchons à ce que ta volonté soit faite aussi sur la terre, de manière parfaite. Et cela commence dans nos vies, en tant que représentants de Dieu sur cette terre. Ambassadeur, ambassadeur de Jésus-Christ, ambassadrice de Jésus-Christ, représentant du royaume de Dieu, donc sur la terre. Jésus, lorsqu'il est venu uniquement pour faire la volonté du Père. Et il n'a pas fait autre chose que la volonté du Père. Jean 6, 38, il dit, « Je suis descendu du ciel. » Il était bien donc dans le ciel. Là où il a toujours été, parole de Dieu éternel, par laquelle Dieu a construit, établi et créé toutes choses. Il dit, je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté. Non, je ne suis pas venu faire ma volonté. Le Père ne m'a pas envoyé pour que je fasse ma volonté. Non pour faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Et qui l'a envoyé? C'est le Père qui l'a envoyé. Et il atteste, alors qu'il est lui-même fils de Dieu, Dieu éternel, quand bien même je suis fils de Dieu, je ne suis pas venu faire ma volonté, mais la volonté du Père qui m'a envoyé. Seigneur, apprends-moi à faire ta volonté. C'est pour cela que dans le jardin de Gethsémané, il était en train de combattre pour nous sauver, dans des souffrances atroces. Et parce qu'il avait revêtu l'humanité, il a même fallu qu'à un moment donné, un ange vienne le soutenir. Car ce combat était rude. Celui qui est saint, pur, juste et parfait devait accepter de prendre sur lui pour nous en délivrer. Le péché, les ténèbres, la noirceur, le mal, l'impureté, l'iniquité, quelque chose qu'il n'a jamais connu parce qu'il est saint, il est excellent de toute éternité. Mais là, il va devoir accepter que tout cela tombe sur lui pour délivrer les hommes. Alors c'est dur ce combat. Et parce que c'est dur et qu'il était aussi homme tout en étant Dieu, un ange vient le soutenir. Mais il ne s'est jamais détourné du but que le Père lui avait fixé. Et c'est pour cela que, quand bien même sa sueur devenant des grumeaux de sang, à un moment donné, il a pris avec lui Pierre, Jacques et Jean, pensant avoir aussi l'aide de ses apôtres qui pouvaient le soutenir dans la prière. Mais ils n'ont pas pu supporter ce combat, ils étaient fatigués, eux ils dormaient. Donc il était vraiment seul. Mais Dieu était avec lui naturellement, le Père. Mais les hommes qui auraient pu le soutenir l'avaient abandonné. Ô Seigneur, ne nous abandonne pas. Fais-nous grâce sur cette terre. Et alors, dans ce combat terrible, où là où il aurait pu abandonner, il va dire, Père, si tu pouvais éloigner de moi cette coupe, si tu pouvais éloigner de moi cette coupe, tout est possible à toi, Père. Il le sait, il est Dieu lui-même. Tout est possible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Il dit au Père, Mais en fait, si tu pouvais changer ce programme et ce plan, tu as l'autorité, tu as la possibilité de le faire. Père, éloigne de moi cette coupe. Mais parce qu'il sait que c'est la volonté du Père qu'il est venu faire, et non pas sa volonté. Alors, il dira, non pas toutefois, non pas ma volonté, mais ta volonté. Je suis venu pour accomplir ta volonté, Père. Et c'est ce programme sur lequel nous nous sommes entendus pour que je vienne sauver les hommes. Même si cela m'est difficile. Et la Bible dit, en Marc 14, 13, 36, il va commencer à éprouver de la frayeur et des angoisses. Est-ce qu'on se rend compte que Dieu éprouve de la frayeur et des angoisses? Ça n'est jamais arrivé à Dieu. Dieu n'a jamais connu ça dans le passé. Jamais. Dieu est souverain. Dieu ne peut pas éprouver de la frayeur et des angoisses. C'est impossible. Mais parce que là, il était devenu homme pour nous sauver. Regardez tout ce qu'il a dû supporter. Il éprouve de la frayeur et de l'angoisse. Dieu qui éprouve de la frayeur et de l'angoisse. Pourquoi tout ça? Pour nous sauver, pour nous apporter le salut, pour briser nos chaînes, pour détruire les œuvres du diable dans nos vies. Voilà pourquoi il accepte tout cela. Et c'est à cause de ce but que le Père lui a fixé et pour lequel il est d'accord et qu'il est en train d'accomplir son ministère. Alors il dit, non pas ma volonté, mais ta volonté, Père. J'irai à cette croix, quoi qu'il en coûte, quoi que je subisse, j'irai à cette croix pour les délivrer, Père, parce que je les aime, parce que je ne veux pas qu'ils se perdent, parce que je ne veux pas qu'aucun d'eux ne puisse se perdre. Je veux que là où je suis, ils y soient aussi, et pour l'éternité. Il était déterminé à faire la volonté de son Père. La volonté de son Père, c'était ça sa nourriture. C'est ça qui le motivait. C'est ça qui lui donnait la force. C'est ça qui lui donnait envie de continuer. Même si les hommes le fatiguaient, mais il voulait aller jusqu'au bout. Parce que lui, il a la vision éternelle. Il n'a pas la vision du jour présent ou juste du lendemain. Où nous, on se fixe sur le jour présent, le lendemain ou dans 10 jours, dans 2 mois. Lui, il a la vision éternelle. Il voit déjà toutes ces âmes qu'il va racheter et qu'il va emmener avec lui, royaume de Dieu, et avec lesquelles il va se réjouir. Toutes ces âmes qui vont être heureuses et qui vont pouvoir bénéficier de la grâce, la bonté, la bénédiction de Dieu pour l'éternité. Et c'est ce qu'il voit à lui. Alors, quoi que ça lui coûte, il ira donc jusqu'au bout. Parce que sa nourriture, c'était de faire la volonté de son Père. Jean 4, 34, Jésus dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. C'était ça sa nourriture. Faire la volonté de celui qui l'avait envoyé et d'accomplir son œuvre. Il n'avait donc pas d'autre objectif que cela. La bonne question que nous devons nous poser ce matin. Et nous, quelle est notre nourriture? Qui nous envoie? N'est-ce pas Jésus qui nous envoie? N'est-ce pas lui qui en Matthieu 28, 19, 20 a dit « Allez » N'est-ce pas Jésus qui a dit « Allez » pour que nous puissions faire de toutes les nations des disciples en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, afin que nous puissions ensuite leur enseigner à observer tout ce que Jésus nous a prescrit. N'est-ce pas Jésus qui nous a dit « Allez » N'est-ce pas le Père qui l'avait envoyé? Et nous, c'est Jésus qui nous envoie. L'Église est administrée par Jésus-Christ qui en est la tête. Il en est l'administrateur en chef. C'est lui qui décide. Il a dit qu'il bâtirait son Église sur lui-même, la pierre angulaire, le fondement, le roc, comme nous l'avons lu concernant les deux maisons. Et alors, puisque c'est lui qui nous a dit « Allez », à qui nous devons-nous être soumis ? À nous-mêmes, à quelqu'un d'autre ou à Jésus-Christ ? La question, elle est évidente. La réponse, pardon, à cette question est évidente. Lui, le Père l'a envoyé, il était soumis au Père. Si c'est lui qui nous envoie, nous devons lui être soumis. Être soumis pour faire sa volonté et ses œuvres. Nous devons donc souhaiter ardemment, en toutes choses, comme le voulait le roi David. Mais comme Dieu nous connaît, il a permis que soit écrit dans sa parole toutes sortes d'enseignements qui prennent en compte nos faiblesses. Parce que David voulait faire la volonté de Dieu, mais il a eu des faiblesses. Pour autant, Dieu ne l'a pas rejeté. Parce qu'il était sincère dans sa repentance. Celui, celle qui est sincère envers Dieu, trouvera toujours la grâce de Dieu pour le ramener dans le bon chemin. C'est ça qui doit être le leitmotiv de la marche chrétienne, être vrai, être sincère, pour ne pas, lorsque nous dévions des voies de Dieu, être laissés de côté. Si nous sommes vrais, si nous sommes sincères, Dieu étendra toujours sa main de bénédiction et de miséricorde et de grâce sur nous, afin de nous ramener dans son droit chemin. David, c'était un homme selon le cœur de Dieu, mais combien il a commis certaines erreurs, et non pas des plus simples, des erreurs très graves, mais il avait ce désir sincère de faire la volonté de son Dieu. Et comme lui, nous devons avoir ce désir. Comme le psaume 143:10, il a dit, et nous devons le dire, ça doit être une prière aussi, venant de notre cœur. Enseigne-moi, Seigneur, à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. Que ton bon esprit me conduise sur la voie droite. Enseigne-moi. Un chrétien, dans ses moments de prière de tous les jours, quel que soit le motif pour lequel il prie, ou quel que soit le moment de la journée, il y a des prières types, c'est-à-dire des choses qu'il est obligé de demander à Dieu. Il ne peut pas juste se lever comme ça, il se prépare, il prépare son activité professionnelle et il s'en va. Il va prier pour des sujets spécifiques, c'est vrai, mais il y a des sujets pour lesquels c'est tous les jours qu'il doit le demander. Saint-Esprit, crée en moi le fruit de l'Esprit. Jésus-Christ, aide-moi à t'adorer. Saint-Esprit, révèle-moi la parole de Dieu. Il y a des choses qui sont clés, des prières clés. Et ça, le chrétien ne peut pas s'en passer. Ça ne peut pas être une fois dans le mois, une fois tous les deux mois par an ou une fois par an. C'est tous les jours, il y a des sujets pour lesquels on doit prier. On doit demander à Dieu de nous aider. Jésus disait à un homme qui s'appelait Nicodème, pour voir le royaume de Dieu, dans l'évangile de Jean chapitre 3, il dit à cet homme qui était pourtant un sacrificateur, un responsable du temple de Jérusalem, il lui dit, pour qu'un homme puisse voir le royaume de Dieu, il doit naître de nouveau. Naître de nouveau. Autrement dit, celui qui ne naît pas de nouveau ne peut pas voir le royaume de Dieu. Et comme Nicodème ne comprenait pas ce que ça veut dire, il lui explique ensuite que pour qu'un homme puisse entrer dans le royaume de Dieu, il doit naître d'eau et d'esprit, de la parole de Dieu et de l'esprit de Dieu qui va faire entrer cette parole dans le cœur de la personne qui écoute. D'accord ? Donc, il n'est pas possible d'entrer dans le royaume de Dieu, c'est ce qu'il dit à Nicodème. Si on ne naît pas d'eau et d'esprit, si on ne naît pas de nouveau. Mais dans ce que nous avons lu en introduction, Jésus apporte une autre notion. Une notion très importante qui complète ce qu'il est en train de dire à Nicodème. Et il est en train de dire, il ne suffit pas de dire « Seigneur, Seigneur » pour entrer dans le royaume de Dieu. Ça veut dire quoi? Il ne suffit pas d'être né de nouveau, naître né d'eau et d'esprit pour entrer dans le royaume de Dieu. Non, ça ne suffit pas. Ça, ce n'est que le début. Ça, c'est la première condition obligatoire. Sans cette condition, la porte du ciel est fermée. Il faut déjà naître de nouveau d'eau et d'esprit pour voir le royaume de Dieu, c'est-à-dire comprendre les choses qui viennent de Dieu et pouvoir y accéder par l'Esprit de Dieu qui nous fait comprendre, qui nous fait recevoir Jésus dans nos vies comme Sauveur et Seigneur de nos vies et avoir ce désir désormais d'être un enfant de Dieu, de dire « Seigneur, je t'accepte comme mon Sauveur, mon Seigneur, je te demande pardon pour mes péchés. » Mais après, il y a un engagement. Et c'est pour ça que Jésus dit ici, il ne suffit pas de dire « Seigneur, Seigneur ». Ce n'est pas aussi simple que cela. Et il dit très clairement, ce ne sont pas tous ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Naître d'eau et d'esprit, c'est la première condition pour que nous soyons emmenés à la repentance et que nous demandions à Jésus-Christ de devenir notre Sauveur et notre Seigneur. Mais ça ne s'arrête pas là. Ensuite, il faut accepter de marcher dans l'obéissance. Et l'obéissance ne peut être observée que lorsque nous sommes prêts à faire la volonté de Dieu. Celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Vous savez, pour nous qui avons un véhicule, que ce soit une moto, une voiture, pour pouvoir accéder à la circulation sur la voie publique, nous avons dû premièrement passer le permis, le code, ensuite la conduite, et les deux ensemble, si nous les avons réussis, c'est l'autorisation que nous avons obtenue, le permis de conduire, donc d'aller sur la voie publique avec un véhicule autorisé. Donc il fallait d'abord le permis, naître d'eau et d'esprit, pour accéder à la voie publique, accéder au royaume de Dieu. Mais si nous nous mettons à faire n'importe quoi sur la route, et nous le voyons, ça existe, il y a des gens qui font n'importe quoi, pourtant elles ont le permis, ils ont le permis de conduire sur la voie publique. Si nous nous mettons à faire n'importe quoi, que se passera-t-il? L'autorité pourra constater les infractions que nous faisons et pourra prendre à notre encontre des mesures disciplinaires, au point même que le permis, nous pouvons le perdre. Et c'est la réalité pour certaines personnes. Elles avaient le permis de conduire, mais elles l'ont perdu. Elles doivent recommencer. Et certaines personnes ont raté des postes professionnels à cause de ça. Soit qu'elles étaient déjà en poste, elles ont perdu le permis de conduire, elles ne pouvaient plus continuer leur activité professionnelle qui nécessitait d'avoir le permis. Et d'autres, n'étant pas encore en poste, partant dans un entretien d'embauche, n'ont pas pu avoir le poste parce que ce poste-là exigeait d'avoir le permis de conduire. Pourtant, ces personnes, soit qu'elles ne l'avaient pas, ou soit qu'elles l'avaient. Naître d'eau et d'esprit, c'est la première condition pour voir le royaume de Dieu et pour y accéder. Mais ensuite, si nous ne respectons pas les règles du royaume de Dieu, celui qui est l'autorité suprême, au-dessus de toute autorité, il pourra nous en éjecter de son royaume. Parce qu'il y a des règles dans son royaume. Si ces règles ne sont pas respectées, notre place ne sera plus trouvée dans son royaume. C'est pour ça qu'il le dit. C'est Jésus, Dieu sur la terre, qui a dit, celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, c'est celui-là seul qui entrera dans le royaume de Dieu. Alors ça veut dire quoi faire la volonté de Dieu? Parce qu'il a dit autre chose tout à l'heure, lorsqu'il a dit qu'il est descendu pour faire la volonté de son Père. Il a aussi lié une autre chose à la volonté du Père. Il a lié les œuvres de Dieu à la volonté du Père. Autrement dit, il n'y a pas d'œuvre qui corresponde aux œuvres de Dieu si elles ne sont pas faites dans la volonté de Dieu. Il ne suffit pas de faire des œuvres. Il faut que l'œuvre soit faite à la manière de Dieu. C'est pour ça que dans ce monde, le monde appelle beaucoup de choses des œuvres caritatives, des bonnes œuvres, œuvres de ceci, œuvres de bienfaisance et toutes sortes d'œuvres. Mais si ça n'est pas fait à la manière de Dieu, devant Dieu, ce sont des œuvres viles et inutiles. C'est pour ça qu'il ne faut pas se tromper sur les œuvres, sur ceux qui font des œuvres. Encore faut-il être sûr que ce que fait la personne ou un groupe donné, la personne le fait selon la volonté de Dieu. Et il a lié les deux. Quand il a dit « il descend du ciel pour faire la volonté de son Père », il a dit aussi « c'est de cette manière qu'il fait les œuvres de son Père ». Faire la volonté de Dieu, ce n'est pas juste se lever un matin, créer une association et faire des œuvres, ce n'est pas ça. Faire la volonté de Dieu, c'est être en communion avec Dieu pour avoir l'Esprit de Dieu qui nous conduit afin que les œuvres dans lesquelles Christ va nous conduire soient faites de la manière dont Dieu veut que nous les fassions. Ô Seigneur Jésus, apprends-nous à faire ta volonté. Et preuve de cela, c'est que c'est Jésus qui a pris cet exemple. Et ce n'est pas pour rien. Dieu ne fait jamais rien au hasard, jamais. Il a pris des exemples frappants pour bien attirer notre attention, afin que le Saint-Esprit puisse imprégner en nous ce qu'il veut nous dire. Il dit, certains lui diront, nous avons prophétisé en ton nom. Nous avons chassé des démons par ton nom. Nous avons fait des miracles par ton nom. Et remarquez, Jésus ne s'attarde pas sur ce qu'ils sont en train de dire concernant les œuvres. Écoutez bien, il ne les reprend pas. Il n'est pas en train de débattre avec eux pour dire, vous dites que vous avez prophétisé en mon nom, mais est-ce que c'était bien en mon nom? Non, il n'est pas dans ça. Il dit simplement, je ne vous ai jamais connu, vous qui commettez l'iniquité. Il est en train de leur dire, oui, vous faisiez des œuvres, c'est vrai, par mon nom. C'est-à-dire, quand ils disent qu'ils faisaient des œuvres par le nom, ça veut dire que vraiment, quand ils les faisaient, ils disaient au nom de Jésus, par le nom de Jésus. C'est vrai. Jésus ne les reprend pas sur ça. Jésus leur dit seulement, vous êtes des ouvriers, vous étiez, parce que là, quand Jésus parle de cela, il s'agira du moment où tous comparaîtront devant lui pour rendre compte de ce qu'ils ont fait sur cette terre. Et il dit, vous étiez, durant votre vie sur la terre, des ouvriers d'iniquité. Je ne vous ai jamais connus. Non par rapport à ces œuvres-là, ce n'est pas ce qu'il est en train de dire, mais par rapport au fait que vous étiez des ouvriers d'iniquité. Ça veut dire que ces œuvres-là que faisaient ces personnes, même si elles disaient « au nom de Jésus, par le nom de Jésus » et de toutes sortes de manières qu'ils voulaient l'appeler « Emmanuel », lui, Jésus, il dit, la manière dont vous faisiez ces œuvres, c'était des choses totalement abjectes, contraire à ma volonté, contraire à ma vision, contraire à ce que j'enseigne, contraire à ce que je demande, contraire à la manière dont je vous demande de faire les choses. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il ne va pas plus loin, il ne donne pas plus de détails. Mais il dit, je ne reconnais pas ce que vous faisiez parce que ce n'était pas de la manière dont je vous demandais de le faire. Donc, comme ce n'était pas à ma manière, vous n'étiez pas en train de faire ma volonté. Et si vous n'étiez pas en train de faire ma volonté, ce n'est pas mes œuvres que vous faisiez. Ce ne sont pas mes œuvres que vous faisiez. Vous faisiez les œuvres d'autres personnes ou de vous-même, mais ce n'était pas mes œuvres. Ce n'était pas mes œuvres. Je ne vous ai jamais connu, ouvrier d'iniquité. Ainsi que l'on se pose bien la question, Seigneur, est-ce que ce que je fais correspond à ce que tu me demandes? Est-ce que je suis vraiment en train de faire ta volonté? Est-ce que tu es d'accord? Est-ce que lorsque tu me regardes, tu agrées et tu approuves? Est-ce que c'est bien comme ça que je dois faire, Seigneur? Et Dieu est un Dieu d'amour, n'est-ce pas? C'est un Dieu de grâce. David, il ne l'a pas frappé, non? Oui, David a subi. Il a subi les épreuves. C'était normal. Et Dieu permet aussi qu'on passe par des épreuves. Mais lorsqu'on est vrai, comme j'ai dit, lorsqu'on est sincère, si on va dans un sens, on croit faire les œuvres de Dieu, et Dieu nous arrête ou il nous interpelle, son esprit nous interpelle, et on voit qu'on ne fait pas ses œuvres, c'est-à-dire on ne fait pas comme il veut, même si on pense faire ses œuvres, on s'arrête, on change de voie, et on dit, Saint-Esprit, montre-moi comment faire l'œuvre de Dieu. Et on va dans l'autre sens, et on se nourrit de la bonne nourriture. Cette nourriture va nous donner la force de rester vivant spirituellement, et en étant vivant spirituellement, avec la communion avec Dieu, on va pouvoir faire les œuvres, non pas comme on veut, non pas comme un autre nous a dit de le faire, mais comme Dieu veut que nous les fassions. Parce que c'est lui qui nous envoie. Comme lui, il était venu de la part du Père, et qu'il a accompli toute la volonté, donc, de son Père. Jésus, voulant attirer notre attention encore, il utilise une scène qui ne peut pas nous laisser indifférents. Lorsqu'un jour, alors qu'il y avait une foule autour de lui, sa mère, Marie, avec ses frères et ses sœurs, nous dit la Bible. Parce que Marie n'est pas restée vierge, contrairement à ce qu'on veut faire croire dans certaines doctrines contraires, justement, à la volonté de Dieu. Marie a eu d'autres enfants avec son mari Joseph. Donc cette mère Marie et ses frères et ses sœurs viennent le voir, mais ils ne peuvent pas y accéder parce qu'il y a trop de monde. Alors quelqu'un vient lui dire, ta mère et tes frères sont là et ils veulent te voir, ils veulent s'entretenir avec toi. Et Jésus va utiliser cette circonstance pour bien nous enseigner sur ce qu'est la volonté de Dieu. Il dit en Matthieu 12, 47, 50, « Qui est ma mère ?» C'est celle qu'il a portée, n'est-ce pas? Celle que le Père a choisie, dans le sein de laquelle il était pour être un homme. Il sait bien qui est sa mère. C'est Marie quand même qui l'a allaitée. Mais il dit, qui est ma mère? Qui est ma mère? On lui dit, ta maman est là? En toute honnêteté, moi je ne crois pas que si quelqu'un venait me dire, Patrick, ta maman est là? Elle est là dehors, elle souhaite te parler. Je ne dirais pas, mais qui est ma mère? Ce n'est pas possible. C'est ma mère. Je pense que c'est pareil pour chacun de nous. Mais lui, il joue sur ça parce qu'il est la parole, il est l'autorité suprême. Il a toute l'autorité pour faire les démonstrations. Alors sur ça, il veut bien leur faire comprendre. Mais qui est ma mère? Et qui sont mes frères dont vous êtes en train de me parler? Je vous dirai qui est ma mère et qui sont mes frères. Je continue la lecture. Il regarde ses disciples. Qui sont ses disciples? Ceux qui se soumettent à ses règles, à ses lois, à ses commandements. C'est ça un disciple, vis-à-vis d'un maître. Il regarde ses disciples. Et il étend sa main sur ses disciples et il dit, voilà, voici ma mère, mes frères, mes sœurs, car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère, ma sœur, ma mère. Vous croyez que c'est pour rien que Jésus a fait ça, qu'il a dit cela? Vous croyez que ce qui est écrit dans la Bible, est-ce que moi-même je crois que ce qui est écrit dans la Bible, ce sont des choses vraiment, des choses simples pour juste agrémenter un petit peu notre vie? Mais non, c'est la parole de Dieu. La Bible dit que la parole de Dieu est vivante. Cette nourriture, elle est vivante, c'est réel. C'est ça qui doit nous nourrir pour que nous demeurions spirituellement vivants. Il dit, ma mère, ce n'est pas Marie qui est dehors. Ce n'est pas qu'il ne reconnaissait pas Marie comme sa mère, ce n'est pas ça. Mais il veut bien leur faire comprendre. Quand bien même Marie, c'est ma mère, et quand bien même j'ai des frères, effectivement, qui sont avec elle. Mais ce que je veux vous faire comprendre, celui que je reconnais comme mon frère, ma sœur, ma mère, c'est mon disciple, c'est-à-dire celui qui m'obéit et qui fait ma volonté. C'est celui-là qui est ma mère, mon frère, ma sœur. Dans Marc, dans Luc 8, 19, 21, il dit ceci, c'est exactement la même scène, et il dit, ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Ce sont ceux-là que je reconnais moi comme ma mère, mon frère, ma sœur, et on pourrait ajouter les oncles, les tatis, tout ce qu'on veut. Du moment où c'est quelqu'un qui fait ma volonté, qui est soumise à mon autorité, alors oui, je le reconnais comme ma mère, mon frère, ma sœur. Je le reconnais comme membre de la famille que je suis venu créer. Mon église, mon épouse que je viens rechercher bientôt. C'est ça qu'il est en train de dire. La nouvelle naissance ne suffit pas. Naître de nouveau ne suffit pas. Après la nouvelle naissance, il faut maintenant l'obéissance. Et l'obéissance ne se fait que par le respect de la volonté du souverain qui tient le souffle de vie qui est en chacun de nous, entre ses mains divines. Et c'est en faisant ainsi la volonté de Dieu qu'on pourra faire aussi les œuvres de Dieu. Parce qu'on les fera selon sa volonté. Et on ne sera pas comme ceux qui disaient dans l'église de Corinthe, « Moi je suis d'Apollos, moi je suis de Paul, moi je suis de Céphas. » Ça, ce sont des gens qui font la volonté d'autres personnes. Ce n'est pas Apollos, Céphas. C'est Jésus-Christ. C'est le Père. C'est le Saint-Esprit. Alors, je priais un jour pour ce sujet parce que ça m'avait interpellé, ça m'avait touché. Et je priais, je disais, Seigneur, apprends-moi à faire ta volonté. Apprends-moi à faire ta volonté, Seigneur. Parce qu'on se rend compte dans la marche chrétienne, quelles que soient les années, il y a toujours des travers, il y a toujours des choses qu'on ne fait pas bien, il y a toujours une parole, une attitude, un comportement, il y a quelque chose qui ne va pas. Seigneur, apprends-moi à faire ta volonté. Tout chrétien devrait faire cette prière chaque jour de sa vie. Et ce qui est venu en moi, il y a trois points. Trois points sont venus en moi. Le premier, aimer son prochain comme soi-même. Souvenez-vous qu'un jour, lorsque on a demandé à Jésus quel est le plus grand des commandements, en Matthieu 22, 36, 40, il a dit, le plus grand des commandements, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Mais il y a ajouté un second, il a dit qu'il lui est identique. C'est-à-dire, il a la même valeur que le premier. Il dit, et voici le second qui lui est semblable. Donc ce second commandement est aussi précieux pour Dieu que le premier. Et il dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et il ajoute, de ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. C'est-à-dire que la personne qui veut faire la volonté de Dieu et les œuvres de Dieu doit s'assurer qu'elle observe ces deux commandements. Parce que les deux ne font qu'un, en fait. Aimer Dieu de tout son cœur, de toute sa force, de toute son âme, de toute sa pensée, et aimer son prochain comme soi-même. Ça veut dire quoi, aimer son prochain comme soi-même? Ça veut dire qu'il est impossible, si je dis que je fais les œuvres de Dieu, que je fasse volontairement, parce que par erreur, ça peut arriver. Par erreur, on peut faire du mal à quelqu'un. On peut faire du mal par erreur. Mais volontairement, il est impossible à quelqu'un qui fait les œuvres de Dieu de poser des actes pour faire du mal à l'autre. Impossible. Aimer son prochain comme soi-même nous interdit, nous empêche de manière volontaire, c'est-à-dire consciente, à poser des actes où on sait que le but c'est de faire du mal à l'autre. Ce ne sont pas les œuvres de Dieu, ça. On ne peut pas faire du mal à l'autre de manière accidentelle, ça peut arriver. Mais de manière volontaire, ça ne peut pas arriver. Si ça arrive, on doit s'arrêter et dire, Seigneur, que m'arrive-t-il? Je me rends compte que là, ça ne va pas ce que je fais. Parce que mon but, mon objectif, c'est d'atteindre l'autre, de lui faire du mal. Ça, je ne suis plus en train de faire tes œuvres. Donc je m'arrête, comme je disais, je m'arrête, je change de voie, je repars dans les voies du Seigneur. Ensuite, pratiquez le bien. Matthieu 26-28, pour ceux qui, vous savez, c'était ceux qui avaient demandé à Jésus que l'un soit à sa droite, l'autre à sa gauche dans son royaume. Et Jésus veut leur enseigner surtout à ne pas se mettre en avant, à ne pas chercher les premières places, à ne pas laisser l'orgueil venir dans le cœur, la vanité. Il dit, il n'en sera pas de même au milieu de vous, mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur, et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour plusieurs. Il rappelle son exemple de ce que lui, il a fait. Il est venu servir, donner sa vie en rançon pour nous. Et il nous dit, vous aussi, parce que la deuxième chose qui est venue en moi, c'est ça, pratiquer le bien. Vous aussi, pratiquez le bien. Mais pratiquer le bien, ça veut dire quoi? Ça veut dire, il ne faut pas qu'il y ait de manière inavoué, quelque intérêt caché. Parce que vous savez qu'il y a des gens qui disent qu'ils font le bien, mais au fond d'eux, il y a un but inavoué, caché dans le cœur, déguisé sous forme de bien. Je fais ça, mais j'aurai telle chose en retour. Je vais faire cette action qui est une bonne action, mais c'est parce que je sais que j'obtiendrai aussi quelque chose en retour. Ça, ce n'est pas faire le bien. Ça ne s'appelle pas faire du bien. Parce que ce n'est pas à la manière de Dieu. Le bien que l'on fait doit être totalement désintéressé. Totalement. Je fais une action qui va faire du bien à mon prochain. Ça s'arrête là. Il n'y a rien de caché derrière que j'essaie de mettre en place en espérant ou en cherchant, en calculant. Et là, j'aurai telle chose en retour. Non, ce n'est pas le bien, ça. Ça s'appelle chercher son intérêt en mettant en place une stratégie sous couverture du bien. Le bien, c'est que je fais la chose qui va faire du bien à mon prochain, mais il n'y a rien de caché derrière. Il n'y a pas d'intérêt inavoué ou caché. La troisième chose qui est venue en moi, c'est prêcher la parole en tout temps et insister en toute occasion, bonne ou mauvaise. Car Jésus nous a dit, allez, et faites de toutes les nations des disciples. Comment ferons-nous des nations des disciples si nous n'annonçons pas la parole? Prêchez la parole en tout temps. Insistez en toute occasion, bonne ou mauvaise. Il ne s'agit pas d'être comme cela forcément sur la chair, en train de prêcher, ce n'est pas ça. C'est de rendre témoignage à Dieu. En tout temps, nous devons être toujours prêts à parler de Dieu, à lui rendre témoignage, à dire ce qu'il fait, qui il est, ce qu'il fait pour nous. Des fois, ce sera facile parce que nous aurons des interlocuteurs qui sont réceptifs. Et à d'autres moments, nous aurons des interlocuteurs qui ne veulent pas entendre. Alors, ce ne sera pas évident, mais on peut toujours placer un petit mot. Et s'il ne veut rien entendre, on ne va pas les forcer. Mais si on arrive même à dire que Dieu te bénisse, il ne veut rien entendre, que Dieu te bénisse. Arrête avec cette histoire de Dieu là, que Dieu te bénisse. Ça s'arrête. Être toujours prêt à parler de Dieu, à témoigner de sa foi, c'est ça que Dieu nous demande. Parce que nous sommes de nouvelles créatures en Christ, créées pour les bonnes œuvres que Christ a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Les œuvres que Christ a préparées. Pas nous. Ce ne sont pas des œuvres que nous avons préparées. Nous n'étions pas là avant Dieu pour préparer ses œuvres. Il est Alpha et Oméga. C'est lui qui, avant même la création du monde, avait déjà préparé les œuvres que nous allions faire. Que Christ a préparées d'avance pour nous, afin que nous les pratiquions. C'est ça les œuvres de Dieu. Alors, je laisse sur votre cœur ce verset dans Romains 2,13. Ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. Naître de nouveau ne suffit pas. Maintenant, avec la nouvelle naissance, il faut l'obéissance pour faire la volonté de Dieu et accomplir les œuvres qu'il a préparées d'avance pour nous. Seigneur Jésus, apprends-moi à faire ta volonté. Retenez cette prière, faites-la tous les jours de votre vie. Et chaque jour, le Saint-Esprit vous montrera une manière différente à chaque fois de faire la volonté de Dieu. Hier, il vous avait montré, si on vient t'attaquer, si on vient te piquer, ne te mets pas en colère. Ça, c'était une manière. Demain, il viendra te dire, si quelqu'un te maudit, dis-lui que Dieu te bénisse. Après demain, il viendra te dire, si quelqu'un te dit, mais tu n'as pas besoin de prier, ce n'est pas important, tu peux lui dire, la prière, c'est la respiration de l'âme. À chaque fois, le Saint-Esprit te donnera une parole. Seigneur, apprends-moi à faire ta volonté. Et le Saint-Esprit viendra chaque jour te donner une autre manière, quelque chose, une chose nouvelle, une information nouvelle, pour que tu apprennes à faire la volonté de Dieu, pour que j'apprenne à faire la volonté de Dieu. Prions. Seigneur Jésus, Dieu de grâce et de miséricorde, nous voulons faire ta volonté, parce que ta volonté, elle est parfaite. Elle est excellente et c'est par elle que nous pouvons faire tes œuvres. Nous t'en supplions, nous avons besoin de ton aide. Et nous nous adressons aussi à celui que tu as envoyé pour nous enseigner l'Esprit de vérité. Esprit Saint, Esprit Consolateur, révèle-nous toute la volonté du Christ Jésus, afin que nous la fassions à la manière de Dieu, et que tu sois heureux de nous voir faire tes œuvres par ton esprit. Nous t'en donnons toute la gloire éternelle et nous te remercions pour ton amour. Béni sois-tu pour l'éternité, Jésus-Christ. Amen.